TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous poursuivons sur notre sujet brûlant, la sexualité. Et oui, mesdames et mesdemoiselles et messieurs et tout le monde qui nous regarde. Je suis sûre que vous avez été emballés par l'émission d'hier et qu'aujourd'hui, ça va être aussi formidable avec toi, Rachel.
Bonjour, mesdames.
Bonjour, Rachel.
Tu vas bien, Rachel?
Ça va bien et vous toutes?
Très bien. Et oui, et je le dis encore, Evelyne est encore là. Tu vas être là toute la semaine.
J'ai aimé l'émission d'hier, on verra si je vais rester. Ça dépend de Rachel.
Et d'ailleurs, j'aimerais dire, avant qu'on aille plus loin dans l'émission, c'est que dans la semaine, nous allons parler aussi des célibataires. Pour vous, célibataires, quelle est la place de la sexualité dans la vie des célibataires? C'est quand même très intéressant. Et autre chose, nous allons aussi parler de la sexualité. Comment parler aux enfants de la sexualité, au bon moment, etc. Des questions que beaucoup, beaucoup de parents se posent. Donc, ce sera plus tard dans la semaine. Alors, vraiment là où on peut plus se permettre de rater une seule journée. Vraiment, les jeux, il n'y a pas d'option, non.
Absolument.
Et Rachel, aujourd'hui, on va parler des « que peut-on faire ?»
Ah, voilà.
Est-ce que ça, on a le droit ? Est-ce que ça, on n'a pas le droit ? Ça revient tout le temps.
Exact. Quand on donne des conférences avec Eric, voilà la question classique. Est-ce qu'on a le droit de ? Point. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Alors, je voudrais ramener, encore une fois, Dieu au centre de notre conversation. La sexualité se passe entre un mari et sa femme, donc on a vu le cadre, qui sont adultes et qui sont aptes à prendre la décision avec l'aide de Dieu. Voilà une conversation qu'ils doivent avoir entre eux et avec le Saint-Esprit. Mm-hmm. Vous savez, Dieu quitte pas la chambre quand on fait l'amour avec son mari. Hein. Mm-hmm. Il dit pas « Eh oh, attendez que je sorte !» Il est en nous. Quand les deux deviennent un, spirituellement, émotionnellement et physiquement, Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Mm-hmm. Donc, une conversation à avoir avec eux. Maintenant, pour pouvoir répondre à cette question, avec Eric, on a mis au point un petit triangle d'or qui va nous donner un cadre. Un cadre qui va nous permettre de filtrer nos questions, en fait. Avec ces trois côtés du triangle, vous allez pouvoir passer vos questions et trouver la réponse. Le premier côté, le rapport sexuel, dans le cadre de ce que Dieu prévoit, doit se passer entre un homme et une femme, donc de sexes différents et mariés ensemble. Mmh. Et ils sont que eux deux, même dans leurs pensées. Mmh. Donc vraiment, c'est entre le mari et la femme, que eux deux, avec le Saint-Esprit au milieu, bien sûr, à l'intérieur d'eux, mais aussi dans leurs pensées. Pourquoi ? Que nous, on a déjà entendu des gens qui ont dit « Ah, mais moi, on m'a conseillé, on s'ennuyait dans notre vie amoureuse, donc on nous a conseillé de regarder des films pornographiques pour avoir des idées. Mmh. » En fait, en regardant d'autres personnes avoir un acte sexuel, on introduit d'autres personnes au niveau spirituel, émotionnel, dans notre vie sexuelle. Donc non, on pense pas, on regarde pas un truc pour se stimuler. Et chez les femmes aussi, ça peut être ça. Certaines sont obligées de se stimuler en pensant à quelqu'un qui serait mieux que leur mari ou à un acteur connu en se disant, oh, de toute façon, je le rencontrerai jamais, donc j'aime bien ses bras et ses avant-bras ou je sais pas quoi. Donc je pense à lui pour me stimuler avec mon mari. Hors limite. La relation sexuelle, elle est prévue par Dieu entre le mari et la femme dans leurs pensées aussi. Mmh, d'accord ? Donc, on reste attachés l'un à l'autre. Facile. Mmh. Le deuxième point, c'est qu'il faut que des deux côtés, on ait un feu vert, en fait. Mmh. Des deux côtés, on se dise « Ok, on va essayer ça ». Des fois, on a un feu orange parce qu'on se dit « Ah, j'ai un a priori avec cette technique parce que j'ai entendu des trucs horribles » ou voilà, peur. On réfléchit aux motivations, mais on en discute. Peut-être que j'ai jamais entendu parler de ça, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, on en discute et on arrive tous les deux à un feu vert pour essayer une nouvelle technique. Si on a un feu orange, on peut essayer pour découvrir, mais s'il y a un feu rouge d'un côté ou de l'autre, hors limite, c'est pas pour notre couple. Il n'y a pas de problème avec ça. Premier point, juste entre le mari et la femme. Deuxième point, on est d'accord tous les deux. C'est simple. Et le troisième point, la relation sexuelle est une représentation de notre relation avec Dieu. Donc, c'est hautement spirituel et le but est de donner à l'autre du plaisir. Mmh. Et lui m'en donne à moi. Donc, on n'est pas là pour prendre du plaisir en faisant mal à l'autre. Donc, la troisième partie du triangle, c'est que la relation sexuelle, elle est faite pour donner du plaisir. Donc, je ne peux pas faire mal à mon conjoint pour moi trouver du plaisir.
Oui.
En dehors de ces trois zones-là, que le mari et la femme, même dans leurs pensées, on est d'accord tous les deux et on ne fait pas mal à l'autre pour avoir du plaisir, à l'intérieur de ce triangle d'or, le ciel est la limite. Moi, je vais vous encourager à explorer, mettre des lunettes sexuelles pour lire, par exemple, le Cantique des Cantiques. Je vais vous donner un petit secret à moitié. Dans le Cantique des Cantiques, il y a une description d'une fellation et du sexe oral, en fait. Donc, le mari qui embrasse la femme au niveau des organes sexuels et la femme qui embrasse le mari au niveau des organes sexuels. Cantique des Cantiques explique cet acte-là. Ça ne veut pas dire que c'est pour vous, mais ça veut dire que, voilà, le couple de Cantique des Cantiques explore sa sexualité comme ils en ont envie. Ils sont tous les deux, d'accord, et ils explorent à fond. Donc, je vous invite à relire votre Bible, Cantique des Cantiques. Allez-y, étudiez ça de près, vous allez voir. Il y a des descriptions d'actes sexuels entre le mari et sa femme.
Mm-hmm. Donc, il n'y a pas une liste, finalement.
Non.
Là, les gens disent, il n'y a pas de liste. La liste n'existe pas. J'ai le droit et j'ai pas le droit, ça n'existe pas. Chaque couple doit découvrir ce qui rentre dans son triangle.
Chaque couple doit écrire sa symphonie. Alors, il y a une pratique en particulier où il y a des mesures prophylactiques auxquelles il faudra faire attention. Parce que il y a
tu
des
dis, prophylactique.
Alors ah oui, je voudrais ok. Dire. Pardon. Il y a des par exemple, la question qui revient souvent, c'est le sexe anal. Mm-hmm. Donc on va le garder dans le triangle. Le couple décide pour eux-mêmes. Si jamais ils choisissaient de réfléchir à cette technique-là, alors il faudrait faire attention à des mesures préventives parce qu'il peut y avoir des échanges de bactéries. C'est un canal qui, avec un sphincter, fait pour un sens et pas l'autre. Donc, s'il y a une utilisation trop répétée, prononcée, ça peut créer des incontinences, etc. Donc, il y a des mesures préventives dont ils font bien être conscients. Mais c'est pas à moi à dire au couple ce qu'il doit faire. Ils regardent, ils réfléchissent, ça fait partie des choses qu'ils veulent explorer ou pas, c'est leur choix. Je sais que c'est un exemple extrême, mais justement, choisis un exemple extrême pour bien me prouver que le couple doit réfléchir. Bien sûr, il faut s'éduquer. Si c'est un moyen de contraception et que c'est le seul moyen, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, on a besoin que les fluides, le sperme du mari soit en contact avec le vagin de la dame pour que les deux corps de sa femme, pour que les deux corps se mélangent, etc. Donc, moyen de contraception, c'est fréquent en Afrique, unique avec cette méthode-là, c'est pas une bonne idée. On n'a pas la sexualité où les corps font un. Mais chaque couple va choisir ce qu'ils veulent pratiquer ou non.
D'accord. Il y a un point que tu as dit au départ, c'est que dans le triangle, en fait, c'est que c'est toi et ton mari, toi et ta femme, si c'est un homme qui nous écoute, et Dieu. Oui. Et ça, des fois, on tombe un peu dans des excès. Pourquoi ? Parce qu'on écoute beaucoup ce que les autres ont fait, l'expérience des autres, les informations sur la sexualité, on en a parlé hier, se transmettent beaucoup de façon orale, façon l'expérience que quelqu'un d'autre a portée. Et ça, vraiment, c'était quand même à prohiber parce qu'il faut quand même chercher sa propre intelligence renouvelée par rapport à son propre couple.
Exactement. Parce qu'en fait, l'expérience de quelqu'un d'autre là, appartient au couple de cette personne, pas à nous. C'est pas transférable. On peut apprendre les uns des autres et comprendre comment la sexualité fonctionne, mais certainement pas définir ce qui va être dans mon triangle. J'ai écrit ma symphonie avec Eric. Personne ne la connaît d'autre que nous deux. Chacune, on écrit notre symphonie avec notre mari. Et on peut prier. Si on invite le Saint-Esprit dans la relation sexuelle, eh bien, en fait, on va continuer à découvrir des choses. Éric et moi, on a 28 ans de mariage et on découvre encore des choses aujourd'hui au niveau de la sexualité. Et pourtant, on l'enseigne, etc. Donc, on a des années derrière nous, mais on découvre toujours pourquoi. Parce que le Saint-Esprit est là, il est créatif, il n'y a pas de limite. Quand je dis le ciel est la limite, c'est vrai. Il n'y a pas de fin à la découverte de la sexualité.
Point important. Ah, excuse-moi.
Excuse-moi, je prends ta place.
je vois.
Mais ce qui est bon, c'est qu'il n'y a pas de limite, mais ça reste deux personnes. Parce que là encore, c'est un autre truc. On a l'impression que, justement, vous avez 28 ans de couple. Et des fois, les gens ont 50 couples, ils ont l'impression qu'ils ont fait le tour du chapeau. Ils se connaissent, mais il y a plus encore, sans pour autant inviter des personnes extérieures. Et comme tu as dit, c'est que c'est toi, l'homme, la femme, et Dieu, et dans les pensées aussi, parce que si la femme, s'il y a un blocage et vous n'arrivez pas à, la femme n'arrive pas à lubrifier ou l'homme n'arrive pas à avoir une érection, l'idée c'est pas d'inviter une troisième personne ou une façon de réfléchir, c'est de trouver pourquoi ça marche pas. Et là, hier, on a parlé des hormones et tout. Et ça, c'est vraiment important aussi que les gens puissent le comprendre.
Exact. S'il y a un blocage dans le couple, la solution, elle n'est pas à l'extérieur, de ramener quelqu'un d'autre. Bien sûr, il faut pouvoir se faire aider. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi. Ça fait partie de notre ministère et de notre travail avec Eric, d'aider des couples à décoincer. Mais une fois qu'on a réussi à décoincer, c'est reparti. Alors, il ne faut pas s'installer dans moi. En fait, un bon moyen de savoir si on va bien, sexuellement avec son conjoint, c'est est-ce qu'on continue à avoir envie de découvrir des choses? Et il faut garder cette envie vivante, en fait. Continuer à vouloir apprendre à découvrir l'autre mieux. Et encore une fois, on invite le Saint-Esprit et va nous donner des idées.
Est-ce que les accessoires, ça fait partie
Très bonne question.
Personne, éléments.
Alors, les accessoires, encore une fois, on filtre la réponse pour chaque couple.
Oui.
Si pour un couple, donc l'accessoire, on n'amène pas une âme dans le couple. Donc un accessoire ne va pas enfreindre la première règle. Okay, l'accessoire, on parle de sex toys hein, ici. Mm-hmm. L'accessoire n'enfreint pas la première règle, donc c'est bon. La deuxième règle, est-ce que les deux disent oui ? Si les deux disent oui, ok. La troisième règle, attention, maintenant, là, on va mettre des conditions sur la troisième règle. Les accessoires, si les deux disent oui et qu'on n'emmène pas quelqu'un d'autre, on va pouvoir réfléchir à la troisième. Les risques, donc encore une fois, on va être dans le prophylactique, là, on va faire attention à ce qui risque de poser problème. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la femme, par exemple, n'arrive pas à atteindre un orgasme plus facilement avec un jouet
oui.
qu'avec son mari. Mm-hmm. Il ne faut pas que ça remplace. Il faut que ça vienne améliorer la relation sexuelle. Par exemple, quand on parle de lubrifiant, eh bien, on amène un objet extérieur. Quand une femme a une sécheresse vaginale, etc., eh bien, oui, trouver quelque chose qui vous convient. D'ailleurs, quand on n'a pas accès, l'huile de coco de très bonne qualité a un très bon pH pour cette zone-là. Donc, si vraiment il n'y a pas moyen d'aller acheter à une pharmacie ou qu'on n'a pas les moyens physiquement, l'huile de coco, on en trouve un peu partout,
oui.
Peut compenser, hein, d'accord ? Donc, je vous donne le moyen de démarrage. Mais c'est un objet qu'on rajoute dans la relation sexuelle, mais le but, c'est d'améliorer. Donc, si le but, par exemple, la lingerie fait partie des sex toys aussi. La lingerie est un moyen d'améliorer la relation sexuelle. Ce qu'il ne faut pas, c'est remplacer.
Mm-hmm.
Donc, si on a un sex toy qui va remplacer l'un ou l'autre et qui risque d'aider le conjoint à atteindre l'orgasme plus facilement, je ne dis pas qu'il faut l'enlever de la liste, chacun décide. Mais faites attention, juste précaution.
Il y a un danger.
On prend des précautions. Mm. L'idée, ce n'est pas de remplacer le mari
oui.
ou la femme. Hein. Oui. Voilà. C'est d'aider la relation.
Tu parlais de prière aussi.
Oui.
Je pense que peut-être que quelquefois, prière et sexualité, déjà Dieu et sexualité, c'était peut-être un petit peu ouh. Mais alors la prière, Rachel, tu pousses le bouchon un petit peu.
Ah, mais
alors
je vais le pousser encore plus loin. c'est ce que je fais. Nous, ce qu'on conseille, c'est que après le mariage, avant de devenir sexuel pour la première fois, pour ceux qui respectent l'ordre que Dieu veut, ben moi, je vous invite à vous mettre à genoux et à prier. Invitez Dieu dans votre sexualité. Parce qu'en fait, c'est le ciment du couple. C'est ce qu'on dit souvent. Mais pourquoi c'est le ciment du couple? Parce que ça fait que l'âme et l'esprit et le corps soient un. Donc oui, invitez Dieu dans votre sexualité. Si, je vais même aller plus loin. Et l'orgasme peut déclencher un besoin de louer Dieu.
voire même
de parler en langue. Mmh. Exactement. Parce que d'un seul coup, c'est une façon d'adorer Dieu que d'être un avec son mari et d'avoir les esprits.
Il y a des gens qui sont
évanouis. Ça va, Annabelle? On continue. Ah, tu m'as invitée maintenant. Hein. En plus, tu poses la question. Hein.
Nous, on voit pas les gens à la maison, donc on va.
Exactement. Moi, j'ai plein d'histoires de femmes qui me disent, mais tu sais, quand j'ai un orgasme, celui qui va aller avec le côté mécanique aussi, je parle en langue, ou je ris, ou je pleure. Pourquoi? Parce que nos âmes sont connectées. C'est un plein d'émotions. C'est pas négatif, mais des fois, la femme, elle pleure. Elle pleure de quoi? D'émotion. Mmh. Et elle rit de quoi? D'émotion. Et elle parle en langue de quoi? De connexion spirituelle. Et elle loue Dieu de quoi? De connexion spirituelle. Absolument. Wow. Dieu est au centre de la sexualité. C'est extrêmement spirituel. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'amuser avec.
Oui.
C'est saint.
Oui.
C'est saint, c'est trois fois saint. Mmh. C'est un avant-goût de l'éternité et c'est beau.
Mais concrètement,
oui.
Parce que concrètement, tu parles du triangle d'or, on se met d'accord, etc.
Ouais.
Mais on se prend la main. Ok, Seigneur, est-ce que tu veux est-ce que c'est bon pour nous
alors,
de faire
bonne
telle
question.
Et telle chose?
Excellent. Donc il y a plusieurs façons de prier. Hein. Il y a plusieurs façons de prier. On peut s'asseoir à genoux et prier. On peut aussi parler de notre sexualité en invitant Dieu dans la conversation.
Mm-hmm.
Dire, écoute Seigneur, tu nous mets une conviction à tous les deux.
Mm-hmm.
Et voilà. Et moi j'explique. Écoute, j'aimerais bien essayer ça parce qu'en fait, je me demande si dans cette zone-là, j'ai l'impression que quand tu passes ta main là, ça me fait de l'effet. Est-ce qu'on pourrait essayer ça? Et Seigneur, si tu es con, tu nous le dis quoi. Tu nous mets une conviction dans notre cœur ou tu nous donnes la paix. Et on n'est pas obligé de se mettre à genoux, on peut se mettre à genoux.
Mmh.
Mais on peut aussi, quand on a appris ça au début de notre mariage, Eric, prier, ce n'est pas que faire prier une prière classique, c'est aussi parler de Dieu ensemble.
Mmh.
Parce que Dieu est au milieu de notre relation. Et quand on parle de spiritualité, de sexualité, comme c'est spirituel, on parle de Dieu. Si on parle avec lui, avec son conjoint, et qu'on invite Dieu, Seigneur, tu nous donnes une conviction. Si tu n'es pas d'accord, tu nous mets quand même un malaise à l'intérieur et on va suivre ce que tu nous dis.
Super, merci. Je pense que ça réconcilie vraiment les deux parce que quelquefois, tu as parlé hier de spontanéité, genre ça, tout arrive comme ça sans rien prévoir, mais
quelquefois, le simple fait de pouvoir parler, de prier particulièrement, oui, de façon, pas particulièrement, mais de façon
intentionnelle.
Oui, voilà. Ça, on prie pour tous nos besoins dans la vie. On a besoin, faites connaître à Dieu tous vos besoins, ne vous inquiétez de rien. Et puis, quelquefois, la sexualité, c'est comme, bah non, ça, on ne peut pas prier pour ça quand même.
Et pourtant...
Peut-être que Dieu, ça va le gêner.
C'est lui qui l'a inventé, c'est son idée. Mm-hmm. C'est son idée. Quand on regarde dans la Bible, il y a plein de passages extrêmement, avec des mots extrêmement sexuels, en fait. Nos traductions nous enlèvent ça, mais on n'a pas le temps, je ne vais pas prendre du temps pour ça, mais il y a plein de passages dans la Bible où Dieu nous parle de l'éternité, du salut, au travers de mots sexuels.
Et on veut aussi parler des contrats, des moyens de contraception, parce que ça, c'est vraiment une question qu'on reçoit très souvent. Beaucoup de femmes se posent la question, déjà, est-ce que c'est biblique de prendre un moyen de contraception? Et puis, on a entendu beaucoup de choses, mais on n'est pas tous docteurs, on n'est pas tous médecins. Et la culture, ce que les autres ont dit, ce que les autres femmes font, ça peut beaucoup influencer. Et beaucoup de femmes sont complètement, des femmes chrétiennes sont, oui, vraiment perdues dans ce domaine.
Oui, très important aussi. Donc, effectivement, encore une fois, vous allez dire, elle fait que ça, Rachel, mais c'est vrai, je veux ramener Dieu dans la conversation.
C'est une bonne chose, Rachel.
C'est une bonne chose, hein, ça va. Si je suis connue pour ça, ça va aller. Pas que pour les autres choses que je dis. Le projet enfant, c'est un projet famille. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça sans demander l'avis de Dieu, en fait? Il va nous confier une âme, un être humain, un bébé, c'est une responsabilité. On s'en prend pour 20 ans, hein. Un peu plus même. C'est merveilleux, mais c'est une responsabilité. Donc moi, j'invite la conversation entre le mari et la femme, dire, Seigneur, c'est quoi ton projet famille pour nous? Ensuite, il y a deux options. Je vais essayer d'être schématique pour que ça soit facile à comprendre et à retenir. Deux options. Il y a le couple qui va dire, eh ben, nous, on va accueillir tous les enfants que Dieu nous donne. Et on choisit donc de ne pas avoir de moyens de contraception. Si les deux sont d'accord, ok. Bon courage, parce que mais c'est beau, c'est bien, pas de problème, mais il faudra les assumer par contre. Mm-hmm. Parce qu'un enfant, c'est pas juste le fabriquer, ensuite il faut l'élever.
Oui.
Donc, mais encore une fois, que vous soyez bénis pour ça, hein, pas de problème. Et puis ensuite, il y a des couples qui vont dire, bah nous, on veut prendre la responsabilité que Dieu nous confie de s'occuper de la contraception, et donc c'est-à-dire d'essayer de timer l'arrivée des enfants. Il faut jamais oublier que même si on choisit un moyen de contraception, Dieu reste au contrôle. Hein.
Ah.
C'est-à-dire que les médecins vous le disent, hein, c'est fiable à 97%.
Oui.
Et il y a des femmes, moi je connais des amies qui ont eu ligature des trompes, c'est-à-dire que techniquement, l'ovule ne peut pas passer, ben, elles sont tombées enceintes. Mm-hmm. Donc il y a aussi la dimension de Dieu souverain. Mm-hmm. Puis il y a aussi des femmes qui arrêtent les moyens de contraception et qui ne tombent pas enceintes. Donc il ne faut jamais oublier qu'on peut être maître du timing, dans la mesure qui nous est accessible, mais Dieu reste maître de donner l'âme qui vient, hein, avec le bébé. Donc si on choisit la route contraception, ok, la première chose, c'est que, s'il vous plaît, choisissez un moyen de contraception qui va permettre à vos corps de bien rester unis. J'ai touché un petit peu ça plusieurs fois, mais quand surtout au démarrage de la vie mariée, le corps de la femme a besoin de s'habituer au corps du mari. Et donc, quand le sperme du mari est introduit dans le corps de la femme, donc sans préservatif, les défenses immunitaires de la femme vont diminuer pendant les premières semaines de vie conjugale. Première semaine, premier mois, hein, ça dure une année à peu près. Les défenses immunitaires diminuent à chaque fois qu'il y a une relation sexuelle pour que le corps de la femme apprenne à accueillir le corps du mari, ce qui facilitera la grossesse après. Mmh. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les défenses immunitaires diminuent, donc la femme qui est jeune mariée va avoir des mycoses, infections urinaires plus fréquentes. Parce qu'elle est fragile, elle est sensibilisée à cette zone-là. Et plus elle est habituée, donc plus concrètement le jeune couple marié fait l'amour, plus le corps de la femme s'habitue, plus les mycoses vont diminuer, plus les infections urinaires vont diminuer. Donc c'est très important que les corps puissent profiter l'un de l'autre au niveau de la sexualité, dans le choix du moyen de contraception. Ok. Ensuite, on a deux grandes gammes de moyens de contraception. On a ceux qui vont empêcher donc l'ovule de rencontrer le spermatozoïde pour empêcher la fécondation. Donc, vous voyez comment c'est fait, hein, l'ovule et le spermatozoïde, tout comme un petit poisson qui arrive là et rentre dedans, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Le moyen de contraception qui empêche ça nous garantit qu'il va pas y avoir d'être humain qui va démarrer, en fait. Mm-hmm. La vie démarre, ici, il y a d'autres approches, mais ne prenons pas de risques.
Oui.
Il y a quelques heures d'écart ici. Jouons la sécurité. Quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, la séparation commence à se faire. Ok, la vie commence ici. Le moyen qui va empêcher la fécondation va empêcher que la vie démarre. C'est un bon moyen de contraception. Ensuite, il y a les moyens qui vont empêcher la nidation. La nidation, c'est quand l'ovule a été fécondé, il va migrer dans les trompes, etc., dans l'utérus, et il va s'accrocher dans la membrane à l'intérieur de l'utérus, dans le petit nid. il va s'accrocher, on appelle ça la nidation, il fait un petit nid. Il y a des moyens de contraception qui empêchent la nidation. La difficulté, c'est que l'œuf, là, il est déjà fécondé, ouais, hein, l'ovule. Donc,
la vie commence d'une certaine façon.
Voilà. Demandez à votre médecin, encore une fois, c'est vous qui faites le choix, mais soyez bien informés. Discutez avec votre médecin du style de contraception que vous utilisez. Est-ce que ça va empêcher la fécondation ou est-ce que ça va empêcher la nidation ? D'accord. Ensuite, dans les moyens, bon alors je vais pas trop développer les moyens qui empêchent la nidation parce qu'en fait ils vont faire que le bébé se décroche. Mm-hmm. J'ai utilisé le bébé, vous avez vu.
Oui.
Le bébé se décroche et donc on risque de perdre.
C'est voilà. Comme des mini avortements à chaque fois.
Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. On va empêcher l'enfant de pouvoir se développer et de s'accrocher. Donc tout ce qui va être stérilé, cuivre, etc., va empêcher la nidation. Mm-hmm. Par contre, il y a des moyens hormonaux, donc avec des pilules, avec des dispositifs intra-utérins qui vont relâcher des hormones à petite dose, avec les capsules sous le bras. Mm-hmm. Donc il y a toute une panoplie maintenant des patchs qui vont diffuser des hormones qui vont empêcher soit l'ovulation, soit la fécondation. Encore une fois, ce qu'il ne faut pas, c'est que le spermatozoïde rencontre l'ovule. Donc, si l'ovule n'est pas pendu, il n'y a pas de rencontre. Mmh. Si on empêche le spermatozoïde d'arriver, il n'y a pas de rencontre. Donc, voilà, on discute avec son médecin parce qu'il y a des peurs de phlébite, etc. Mmh. Mais vraiment, il y a des microdosés. Les gynécologues sont là pour ça, pour vous trouver le bon équilibre de ce qui va vous permettre à votre corps. Et puis, faites des essais. Essayez, testez, voyez si ça vous convient, si ça ne convient pas. On passe à autre chose. Et puis, quand on passe à un autre moyen. Hein. Quand on a terminé la saison où on est prêt à accueillir des enfants, c'est-à-dire que quand on a l'impression que le nombre d'enfants que l'on a dans notre famille est complet, mm-hmm. alors il est temps de songer à peut-être quelque chose de plus définitif si on a envie. On revient toujours à la même chose. Mm-hmm. C'est le mari, la femme et leur conversation avec Dieu. Mais si vous vous dites « notre famille est au complet », pourquoi ne pas aller vers un moyen contraceptif plus définitif ? Donc là, je sais que je vais faire réagir plein d'hommes, mais la vasectomie est presque indolore. Il s'agit d'un petit bac à glace, un petit moment, quelques heures à l'endroit désigné. Et en fait, on ne va pas changer l'orgasme de l'homme. On ne va pas changer la quantité de sperme. On empêche simplement les spermatozoïdes d'être dans le sperme. Mm-hmm. Donc,
l'homme éjacule toujours.
Toujours.
Ça ne change rien.
Rien du tout.
Concrètement, ça ne change rien, si ce n'est qu'il n'y a plus de possibilité.
Il n'y a pas
de fécondation.
C'est ça. Mm-hmm. Donc, ça ne change rien. C'est important que les hommes l'entendent. Mm-hmm. Ça ne va rien changer à leur plaisir. Ça ne va pas faire d'hommes de moins de... Ils ne seront pas moins hommes.
Oui.
On ne change rien à la quantité d'éjaculat. Rien du tout. C'est juste qu'il n'y a plus les petits poissons, hein. Il n'y a plus les petits spermatozoïdes. Voilà. Chez la femme, bien sûr, on peut faire ligature des trompes, mais là, c'est un petit peu plus invasif. Il y a eu une époque où il y avait des petits ressorts qu'on introduisait, mais ils reviennent en arrière là-dessus. Donc, ça dépend dans le contexte du pays dans lequel vous êtes. C'est un petit peu plus invasif, mais après tout, pourquoi pas? C'est aussi un moyen quasiment définitif de se dire, j'ai plus à m'en occuper et j'ai plus à ingérer des hormones aussi. Il y a des femmes qui, au bout d'un moment, se disent, fou, j'en peux plus de prendre des hormones, j'ai envie que ça s'arrête. Pourquoi pas? Donc, encore une fois, vous avez la liberté. En sachant que si Dieu a choisi que finalement il vous donne un autre enfant, il a mis du 100%. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants avec ligature des trompes. Hein.
Et pour que les gens qui n'ont pas peut-être accès à tous ces moyens qui ont la méthode calendrier, comment...
Ah oui, alors très bien. Si on n'a pas accès à tout ça et qu'on a la méthode naturelle, ça s'appelle la méthode naturelle, il y a plusieurs approches. Donc ça dépend, la difficulté est qu'en fait ça dépend du cycle de la femme. Mm-hmm. En théorie, on l'a dit, il y a l'ovulation le 14e jour. Mais on reste dans la normalité s'il y a une ovulation tous les 9 ans, jusqu'à une ovulation à chaque orgasme. Donc en fait, il y a une énorme panoplie dans le nombre de fois.
Tous les 9 ans ?
Oui.
Okay.
Bien sûr, on va tomber, une femme qui ovule tous les 9 ans, elle va être considérée stérile.
Ouais.
Et je lui souhaite de pouvoir aller voir un médecin pour l'aider à concevoir. Mais ça arrive que des femmes ne pondent un ovule, ne relâchent un ovule que tous les 9 ans.
Wow.
Et donc, la fourchette, c'est une fois tous les 9 ans jusqu'à une fois à chaque orgasme.
Oh.
Donc, une femme qui va avoir...
Il y a des femmes qui ovulent
plusieurs fois par mois.
Si une femme ovule à chaque orgasme, la méthode naturelle va être un peu plus compliquée. Mais je vous l'explique quand même. Donc, il y a la méthode des températures. On apprend à reconnaître, on prend la température le matin, la méthode Ogino, qui est le grand-père de plein d'enfants. C'est une blague. Oui, des sexologues. Pardon. Donc, elle va prendre sa température tous les matins. Il y a une chute au moment à cause de la progestérone qui chute et donc il y a l'ovulation. Donc, elle va apprendre à lire sa courbe, en fait, et à reconnaître le pic. Ça fait ça. Et le moment où il y a ovulation. Et donc, elle sait qu'à ce moment-là, eh bien, là, d'accord, ils vont peut-être utiliser un préservatif ou ils vont...
S'abstenir.
s'abstenir, mais pas trop longtemps, hein, mm-hmm. parce que la Bible le dit, à moins que ça soit pour prier ou pour jeûner, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ouais, donc, moi, j'entends des femmes qui sont abstinentes pendant 2 semaines parce que pendant 2 semaines, elles sont peut-être fertiles et après, il y a 1 semaine de règles. Donc, pendant 3 semaines sur 4, le mari, ceinture. Non, ouais. non, c'est une protection.
Mais si on utilise cette méthode, alors combien de jours d'abstinence?
Alors, ça dépend.
Dure combien de temps?
Ben, en fait, l'ovule est fécondable pendant 6 heures, mais le spermatozoïde est viable pendant 24 heures. Donc, ça fait une petite fourchette, quoi. Ouais. 3-4 jours, voilà. Selon le rythme. Alors, pendant 3-4 jours, l'utilisation des préservatifs peut être une bonne idée. Mmh. OK, c'est une idée. Sinon, après, il y a la méthode de l'étude de la glaire. Donc, vous avez remarqué, mesdames, que nous avions des pertes au niveau vaginal qui sont normales, pas sales, etc. Normales, et elles servent à faciliter l'avancée des spermatozoïdes. Le corps est conçu de façon extraordinaire. Ouais. C'est fait pour aider le spermatozoïde à venir rencontrer l'ovule, en fait, pour qu'il y ait une petite rencontre, là. Et donc, vous voyez, je fais le geste parce que si vous avez l'habitude de regarder, eh bien, quand la glaire, elle a cette consistance où, en fait, elle va être un peu blanche, un peu élastique, c'est le moment où vous êtes fertile. Donc, c'est le moment, la zone dangereuse. Quand il y a moins de glaire ou que les pertes sont plus liquides et moins muqueux, un peu genre muqueuse, alors c'est, voilà, un peu blanc d'œuf. Blanc d'œuf, c'est ça. Exactement. Là, vous êtes fertile. Donc, en fait, on peut apprendre à connaître comment notre corps fonctionne pour savoir quand est-ce qu'il y a fertilité. Aussi, toucher le col du l'utérus permet de savoir où on en est, mais bon, là, c'est un peu plus technique.
Voilà, ça devient plus compliqué. C'est même compliqué.
Déjà, si vous arrivez, si vous voulez utiliser une méthode naturelle, la température, l'étude de la glaire va vous aider.
Ok, d'accord.
Plein d'options, en fait. Et la chose à retenir, c'est que, autant au niveau des techniques qu'au niveau du projet famille, invitez Dieu dans la conversation, discutez-en. Quand c'est compliqué, c'est pas toujours simple pour tous les couples. Si la femme, elle se retrouve seule à gérer ça parce que son mari, il veut même pas en discuter, ben moi, je l'invite à remettre aussi ce côté, écoute, moi, je me donne à mon mari, mais Seigneur, tu vois que c'est compliqué. Des fois, il me demande des choses que j'ai pas très envie. Je le fais pour toi, aide-moi à lui parler. Voyez, on peut inviter Dieu, même s'il y a des difficultés de conversation dans le couple.
Ah, c'est super. Merci beaucoup, Rachel. Et j'aimerais rappeler, avant qu'on termine cette émission, qu'on peut retrouver tous les points que tu as partagés avec encore plus d'informations et de détails dans ton livre, Hourra pour le VAJJ, qui est sorti récemment et qui est disponible sur EMCI Boutique. Et franchement, je recommande à tous les couples et à toutes les femmes de pouvoir s'en procurer un exemplaire parce que c'est très informatif et salutaire, je pense. Pour beaucoup de couples, ce sera extrêmement salutaire. Donc, la sexualité féminine du berceau au tombeau. Donc, merci beaucoup, Rachel, d'avoir écrit ce livre pour toutes les femmes. C'est super. Donc, je le recommande, EMC Boutique. Allez vous l'acheter, s'il vous plaît. Achetez-le à quelqu'un d'autre aussi, tant qu'à faire, parce que peut-être que les gens ne vont pas oser se l'acheter eux-mêmes. Donc, et si vous êtes pasteur, eh ben, faites une commande groupée pour votre église. Donc, merci beaucoup, Rachel. Et demain, on va se retrouver. On va continuer de parler de la sexualité. Comment vivre une sexualité épanouie après avoir vécu des traumatismes? Parce que, malheureusement, quelquefois, le triangle d'or a été brisé, a été enfreint. Et pourtant, il y a encore un projet de sexualité épanouie.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.